Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Hey, cette semaine, aux lutins de l'enfer, on va faire un petit résumé du film Wonder Woman 84. On va également parler de lutte. On va faire un triplé de Raunchy. On va également faire une review du kit à raclette de Ricardo. Et bien sûr, parler des aléas de gérer un crackhouse. Tout ça aux lutins de l'enfer.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey! Salutations à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O, en compagnie des glorieux Lutin K et Lutin D. Comment allez-vous?
La coupe!
Ça va très bien, la coupe.
Ben d'ailleurs, nos auditeurs qui sont... qui se peuvent plus savoir le résultat du match numéro 5 qui jouait lors de notre dernier épisode. On a quitté juste au moment de la prolongation. Putain, quoi, veux-tu faire l'annonce?
Oui, dans le fond, moi, je vais m'asseoir sur le divan, la prolongation commence, Galchenyuk remet le disque à Suzuki qui part dans le chapeau avec Cofield. remet Suzuki, c'est le but. Donc, victoire de je sais plus combien à combien en prolongation au but gagnant de Suzuki sur une superbe passe de Galchenyuk qui s'est trompé de club.
Ouais, ben, avant, il était pour les Canadiens, fait que c'est facile de se mêler, tu sais.
Ben, tu sais, on disait qu'il faisait rien dans le temps des playoffs avec les Canadiens. c'est vrai. Là, il fait quoi, avec Toronto? Il a été plus utile à Toronto qu'à Montréal pour les playoffs.
Et ce soir, ben dans le fond, Montréal a gagné le match numéro 5, a gagné le match numéro 6 et a gagné le match numéro 7 pour compléter le glorieux retour. Et là, ce soir, on enregistre alors que c'est le match numéro 4 contre les Jets de Winnipeg. Glorieux mène 3-0 la série.
Ouais, moi, j'ai 2-0 à soir pour les glorieux. Jeu blanc de Price.
Un autre jeu blanc de Price en série. Let's go.
Moi, je vais y aller quelque chose de plus serré, peut-être un 3-2. Montréal, évidemment.
Et maintenant, cessons de parler de hockey. Nos auditeurs sont là pour entendre du métal et des niaiseries.
Ah ouais? Ben, du hockey, pour moi, c'est toujours un peu une niaiserie.
Ben voyons.
Ouais,
donc.
Ça rentre dans la catégorie.
Tout dépendant. Avec les surnoms et puis. Les prédictions un peu loufoques, les stats un peu loufoques, ça peut devenir des niaiseries assez vite. Là.
Mais les surnoms, ça fait longtemps qu'on donne plus de surnoms aux joueurs des Canadiens, mais il y a une période de temps que les glorieux avaient tous, ou pratiquement tous, de glorieux surnoms.
Donne donc 2-3 exemples.
Le bisounours padé, ça c'était Patrice Brisebois. Grosse douceur, alias Guillaume Latendresse. Puis, c'est qui l'autre? Wayne Le Gland, que ça, c'était Glenn Métropolite. Donc, parce qu'il se disait le Wayne Gretzky des joueurs polonais ou je sais pas quoi. Puis, il s'appelait Gland, c'est que Wayne Le Gland. Mais, juste par parenthèse, Wayne Le Gland avait le numéro 15. Quand il est parti, on a eu le nouveau joueur qui l'a remplacé avec le numéro 15, il s'appelait Jeff Alpern. Puis, on l'aimait pas, c'est qu'on l'appelle Pensal. Après ça, quand il est parti de l'autre numéro 15, c'est arrivé, c'est le gros pet Terry Nokolainen. Encore une fois, on reste dans la zone de l'entrejambe. Quand il est parti, ça a été Pierre-Alexandre Parenteau, alias Pape, comme le test Pape que les femmes passent. Donc, le numéro 15 avait vraiment une malédiction. Mais ça n'existe plus.
Il y en a pas de 15, je pense. Hein.
Il y en a peut-être un, mais il n'y a pas de surnom qui vienne avec.
Non, fait qu'on poursuit-tu avec notre premier bloc?
Calvaire déjà, go!
Go! Cette semaine, j'ai vu passer dans mon fil deux affaires que j'ai décidé de vous les présenter. Premièrement, une nouvelle pièce de Red Fang, tirée de leur album Arrows, sorti cette année, la pièce Why. Vous irez voir le vidéoclip si vous filez joyeux, là, parce que ça va vous en enlever un petit peu de joie.
Mieux que ça, tu le posteras sur le groupe, sur la page Facebook.
Je vais le poster sur la page, mais mettons que ça te tente pas. Mettons que tu es déjà abonné à la page, tu peux faire ta recherche toi-même, mais viens vers la facilité.
Ben oui, ça, le monde ne veut pas faire des recherches. On est là pour les faire pour eux autres.
Puis sinon, ben avant, moi, je voulais vous faire la critique.
Oh, mais attends. Ouais, mais oui. Juste pour Red Fang, nouvel album, tu disais?
Ouais, nouvel album Arrow sorti cette année. J'ai pas encore écouté.
Ok, ben moi, l'extrait que t'as fait jouer, j'ai trouvé que c'était de moins en moins crasse, leur son.
Ouais, hein, ben ça se clean, en tout cas, selon le vidéoclip, ça, c'est un peu moins ouais, métal crasse qu'au début.
Metal Babs, c'est du Babs Metal qu'ils faisaient.
Fait qu'ils ont eu de l'argent pour s'acheter des amplis.
Ben une guitare et tout qui arrête de distorsionner tout le temps pour rien, là.
Ah, ben moi, j'aimais ça, sa vieille guitare tout décrisse.
Ben oui, le premier album de Red Fang, justement, avec une guitare qui était pas à point, là, qui pognait des chocs électriques avec. C'est, le son de l'album est super bon. Puis ça, avec l'argent qu'ils ont eu, ça a acheté de nouveaux instruments. Puis moi, le deuxième album, j'ai pas trippé tant que ça. Ça sonnait trop propre pour le groupe.
On va péter leur ampli, puis ça va redevenir comme qu'on aimait.
Ouais.
Mais c'est ça. Puis comme je disais au début, je voulais vous faire une critique de l'album Medium Rarities de Mastodon. Ça fait un petit bout que c'est sorti, mais je me suis pas curé ça cette semaine. Puis j'avais été déçu, en fait, parce que c'est, moi, j'achète ça pour des inédits. Des B-sides, des pièces qui n'ont pas sorti ou des pièces qui ont sorti juste sur des singles, sur des compiles ou sur des trames sonores, exemple. Puis là-dessus, sur 16 pièces, il y en a seulement 6. Le reste, c'est des lives et des instrumentales. Fait que je trouvais ça un peu... Oui, l'instrumental, bon, tu le trouves pas, mais tu sais, un instrumental de Blood and Thunder, j'avais-tu vraiment besoin de ça? T'sais, oui, c'est le fun des instrus, mais...
Oui, parce qu'ils sont pas tout le temps bons, le vocal de Mastodon.
Ben, ils se sont améliorés énormément avec les années, là, puis depuis que le drummer chante, ça amène une autre dimension. Là. Fait que finalement, entre-temps, dans mon fil, ben, il y a une nouvelle pièce de Mastodon, justement, qui est sortie, qui est le genre de pièce que j'aurais aimé ça avoir sur mes Medium Rarities. Mais là, elle vient juste de sortir, puis l'album sorti avant, fait qu'on peut pas, mais c'est une pièce pour la trame sonore de Dark Knights, Death Metal Soundtrack, ça sort le 16 juillet. C'est accompagné d'un DVD, ça fait partie de l'univers de DC, les Dark Knights, avec le Batman qui rit. Puis c'est vraiment très bon. Une autre chose qu'on pourrait mettre sur notre Facebook, une belle image du Batman qui rit, qui est probablement un des plus beaux Batman de l'histoire. Ouais, fait que la pièce est quand même intéressante. Ouais, fait qu'on va écouter une nouveauté toute fraîche de Mastodon. On vient d'entendre une vieille toune de Eye on Fire de 2007. C'est Fury Whip tiré de l'album Death Is This Communion. Je me disais qu'une belle voix de gars qui boit 2,41 par jour puis qui fume 3 paquets de beaux gros cigares par jour, je me disais que ça fitait avec du stoner rock comme Red Fang. Là.
Moi, je pense qu'il y fume pas, mais qu'il y mange.
Ouais, hein, c'est un bon pack de cigares avec du lait le matin.
Ben ça, il est un bol de céréales, c'est un bol de tabac.
La diète Lemmy.
Petit tabac avec un Red Bull.
Ah, il y en a, que c'est leur déjeuner, hein, ça, cigarette Red Bull ou des trucs de même. J'ai de la misère à comprendre un peu. Moi, boire du pétillant en se levant, je trouve ça raide.
Ah, ça te kick.
Ouais. C'est le but.
Ouais. Ben, mettez du gaz, tu sais, du lait gazéifié, tu sais.
Du lait gazéifié. Ah.
Déjà que le lait, c'est pas bon. Le quick aux fraises gazé.
Non, mais là, on se rapproche plus de le cœur aux fraises, pas si pire.
Ah ouais, t'es avec la texture?
Moi, non, la texture, non.
laiteux, plus devrais-je dire. Là.
Mm-hmm.
Nouveau quick en canette.
Ouais.
Pour plus de recettes, abonnez-vous à notre page. Ricardo vient de joindre dans notre groupe. Il est fasciné. J'écoutais Ricardo dernièrement à la TV. Puis je crois avoir compris qu'il fait ça chez eux, l'émission. Je sais pas si vous êtes capable de m'approuver ou vous êtes dans le néant total.
J'ai pas jamais écouté Ricardo, je peux pas te dire. Mais à cause de la pandémie, j'imagine que oui, peut-être.
Ouais, mais OK, mais il est équipé, il y a comme genre 8 fourneaux chez eux, puis 6 étals de boucher, puis...
Ouais, il est bien équipé, Ricardo. Ça explique sinon... pourquoi c'est ma femme qui le suit.
Ben, j'ai acheté son kit de raclette Ricardo, là, et c'est le troisième kit de raclette que j'achète dans ma vie parce que les deux autres ont fini un vidange à force de. Tu sais, quand tu grattes puis le revêtement suit, là. Fait que ça m'apprendrait à acheter ça chez le ferroyeur. Fait que là, j'ai acheté un vrai kit de raclette, puis vraiment, il va super bien. Que du positif à dire sur le kit de raclette Ricardo.
Ah, ça chauffe assez vite, c'est bon.
Oui, oui.
Je sais pas c'est quoi les specs de.
Ben.
Les specs habituels.
C'est une plaque recto-verso. Tu sais, tu peux faire des petits déjeuners d'un bord parce que c'est une plaque faire cuire des œufs, entre autres. Là. L'autre bord, c'est la plaque faire des petites grillades. Là, puis t'as 8 compartiments pour garocher tes trucs, faire fondre ton cheese dessus. Fait que. Mais tout se lave bien, tout est bien pensé. Les petites pinces sont magiques.
Cette Bravo émission Ricardo. Est présentée par le lait au chocolat Ricardo. Le lait au chocolat qui pétille.
Si vous le trouvez, faites-nous signe.
On ne sait pas où ce qu'on l'a mis.
En parlant de trucs loufoques, cette semaine, j'ai réécouté Batman Forever.
Oh, chanceux.
Avec Val Kilmer. Le film de Batman avec Val Kilmer.
Jim Carrey.
Ouais, ça faisait beaucoup d'années que je l'avais pas vu. Dans mes souvenirs, bon, Val Kilmer était très moyen, Jim Carrey était bon. Ben finalement, ça restait pareil. Là. Jim Carrey est bon et Val Kilmer est très moyen. Moi, Batman aux lèvres trop pulpeuses, je trouve ça un petit peu spécial. Mais un qui m'a déçu vraiment, c'est Tommy Lee Jones qui joue dans le film. Il fait deux faces. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de Harvey Dent dedans. Il y a trop de... Il est trop excentrique. Il est comme le Sphinx, les deux, ces deux clowns. Je trouve que malheureusement, c'est... Puis en réalité, c'est également son maquillage là, qui est, il est abominablement laid. Là, il est manqué, là, le maquillage de Tommy Lee. Mais... Sinon, Chris O'Donnell, en tant que jeune Robin, est quand même efficace. Mais il aurait été meilleur en Jason Todd qu'en Dick Grayson.
Je vous parlerai peut-être plus tard de Wonder Woman 84 que j'ai écouté et voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard.
Un teaser.
Pas sûr que ça vaut la peine. Je me suis endormi avant la fin, fait que je sais toujours pas comment ça finit, puis je pense pas que j'ai l'intention de découvrir comment ça finit.
Ouais, j'avais lu des mauvaises critiques dessus, mais une des raisons principales, c'est pénible. On les connaît, les personnages, faites ou ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Arrêtez de faire des films du passé des personnages.
Et peut-être que ces personnages-là n'ont pas d'avenir. Non, c'est pour ça qu'on parle de leur passé.
Wonder Woman, dans les Last Night on Earth, là, les derniers Batman, après une genre de destruction du monde, que Batman se promène avec la tête du Joker dans un bocal, et Wonder Woman a le casque de Dr. Fate. Donc, elle a un avenir.
Ben, le personnage est intéressant. Le premier film était bon, mais le deuxième, là, c'est comme... Le méchant est vraiment plate, là. Il est comme pas crédible.
C'est qui?
Je sais pas, le film a pas de but. Ben, c'est comme un gars qui est capable de réaliser des vœux, là.
Un génie?
C'est ça qui... Ouais, c'est comme il y a une pierre mystérieuse qui peut réaliser les vœux, puis le gars souhaite devenir la pierre. Fait que là, on sait pas pourquoi, dans le fond, il est comme méchant, mais... Turns out qu'il est méchant, tu sais, puis... C'est vrai, ça va vraiment nulle part. C'est très déplaisant comme film.
Ouais, bon. Pire qu'Aquaman.
Ouais, peut-être pas à ce point-là.
Donc, est-ce qu'on continue en musique?
Ben sûr.
Ah bon, vous avez d'autres choses à rejeter sur Wonder Woman 84?
Non, ben, je l'ai pas vu. Moi puis les films, hein, on est bien amis.
Donc, cette semaine, moi, je suis décidé d'aller au Danemark, où il y a abondance de Lego et de pâtisseries. Et de magasins H&M. Vous savez, il y en avait mais partout quand on était au Danemark. Là,
Ben, ça vient de là, fait que... C'est suédois, je pense.
Ouais, c'est suédois, mais il y en avait partout au Danemark. D'une des rues piétonnières de Copenhague. Tu sais, genre, t'as un magasin H&M femme. L'autre bord de la rue, en diagonale, t'as H&M homme. Puis un peu plus loin, t'as le H&M kid. C'est big, là. On prend trois bâtisses.
Ils mais ont bon. Du stock en masse.
Ouais. Mais ils ont des groupes en masse aussi au Danemark, quand même des bons groupes de musique, une scène de métal qui remonte à loin. Hein. Je ne suis pas un grand connaisseur du vieux métal danois, mais King Diamond, c'est un Danois.
Ouais, Merciful Fate.
Ça s'arrête là. C'est pas. C'est... Non, il y en a sûrement d'autres, là, mais les noms, je ne les connais pas ou je ne le savais pas. Là. Mais un des groupes danois peut-être les plus en vue, les plus populaires, reste le groupe Hatesphere. Si je ne m'abuse, je veux dire, ils font beaucoup de festivals à travers la planète. Ils ont quand même, sans avoir beaucoup d'albums. On va entendre une pièce, justement, d'Hatesphere, la pièce Smell of Death de leur 7e album, paru en 2011. C'est l'album de Great Bludge Doing. En tout cas, je ne sais pas comment le prononcer. Là. Il y a trop de voyelles qui se suivent là, pour moi là-dedans. Ça fait que.
Ce serait bon un Roue de Fortune, ça.
Ouais, hein. Fait que c'est un bon album. Puis le chanteur, cet album-là, c'est pas. Ça a été leur deuxième chanteur. Ils ont eu Jacob Bredahl pendant plusieurs années. En année, M. Bredahl, il a quitté. Et c'est Sven Elnegard Kier Hansen qui l'a remplacé. Et pourquoi je vous parle de ce mystérieux Sven? C'est parce qu'il est dans le groupe As We Fight qu'on va entendre juste. Avant Hatesphere, le groupe As We Fight, la pièce Pull Me Asunder, le troisième album Meteor Maker qui était paru en 2009, c'était leur troisième et dernier album, le groupe est splitté. Et notre ami S-Ben a également été chanteur pour Night Rage pour des lives, donc une belle carrière pour S-Ben. Mais là, il n'est plus dans Hatesphere, il ne fait plus rien aujourd'hui, il est retourné travailler d'un subway au Danemark à Aarhus. D'accord, on va entendre ça du As We Fight. Au lutin!
De l'enfer!
De l'enfer!
Et nous venons d'entendre la pièce Give Up All Hope. Give Up All Hope du groupe The Candidate, tiré de leur tout premier album, Until We Are Outnumbered, paru en 2010. Le groupe a fait deux albums et s'est splitté ensuite. Et pourquoi que j'ai choisi ce groupe-là? C'est parce que Jacob Bredahl de Hatesphere était parti d'Hatesphere pour être dans ce groupe. Et là, ce que je sais, c'est que M. Bredahl, en réalité, il est encore dans un groupe de musique qui n'a rien sorti depuis que le groupe existe en 2014, je crois, donc...
Ils jouent juste dans leur garage.
Ouais, ouais, ouais. Un groupe qui vient de la ville de Aarhus, qu'on a visité, moi et Dee.
Oui, une très belle ville. Super clean. Super clean. Toute le Danemark est clean. Ouais. Une très belle ville où tu peux te promener dans les attraits touristiques avant l'ouverture tout à fait gratuitement.
Oui, et manger de la bonne pizza au pesto, pas d'ustensiles.
Oui. Oui. Ouais. Puis manger des petites pâtisseries tellement sucrées que c'est physiquement impossible. Au Danemark, ils viennent à bout de sucrer le sucre.
Ouais.
C'est ouais.
Mais il y en a partout des pâtisseries. Pour vrai. Tu te promènes, puis tu as une fringale, tu stresse-toi pas. Il y a du manger partout, partout. Puis quand c'est pas dans des kiosques, dans des commerces normales, ils ont souvent des genres de stands dans le milieu des parcs ou des trucs de même que tu peux acheter de la bouffe aussi. Là. C'est très, très, très bien fait, l'Europe.
Mm-hmm. Pas pour rien que c'est là que les gens sont le plus heureux, en théorie.
Ouais, ben là, évidemment, c'est en Finlande, là. Je sais pas pourquoi qu'ils sont si heureux en Finlande. En plus, ils ont perdu la médaille d'or au championnat du monde de hockey, le Canada qui a gagné.
Ils ont pas fait de sondage depuis hier, fait que ça va peut-être paraître au prochain.
Au prochain sondage qui sont donc malheureux. Non, mais c'est ça, les peuples scandinaves, on dit souvent que l'herbe est quand même plus verte chez le voisin. Pour être allé chez ces voisins-là, oui, quand même, l'herbe est quand même très verte et c'est des beaux pays. C'est sûr qu'en touriste puis vivre là-bas, c'est deux mondes différents. Là. Ça, faut pas se leurrer avec ça. Mais beaucoup d'avantages là, à être un Danois.
Ouais.
Mais je trouverais ça tough. L'espèce de... Ben là-bas, ils sont assez au nord qu'ils ont quasiment une nuit sans fin, finalement.
Oui, ben quand tu montes très, très haut, oui. Ils ont les 6 mois de clarté et les 6 mois de dure noirceur, là. Mais sinon, le plus haut qu'on
était... Même c'est assez au nord. Que...
Ben oui, ben le plus haut qu'on était, c'était à Turku, qui était environ à la hauteur de Kujawak. Puis Turku, ouais, là-bas, ouais. C'est dans leurs villes les plus au sud, là, on s'entend, là. Ça fait que... Puis on a eu à 1h30 du matin, il faisait encore relativement très clair, là.
C'est pour dire que les lampes de rue, les lampadaires de rue allument, là, parce que tu vois le ciel toute la nuit, là.
Ouais.
Mais ça vient plus sombre. Fait que, tu sais, c'est pour ça, les Finlandais, ça dépend, tu sais. Le sondage des plus heureux, c'est ça, c'est si tu fais le sondage l'été. Tu fais le sondage l'hiver, ils sont tous dépressifs, puis ça va pas bien, là.
À hauteur qu'ils sont, l'hiver commence de bonne heure, là. Dans le sens qu'il fait noir tôt, là. À août, il commence déjà à faire noir de bonne heure, là.
Shit, t'imagines, il fait clair de 11h à 1h, genre, puis that's it.
Ouais. Okay. Tu travailles d'une place pas de fenêtre, ce temps-là.
Ouais, c'est ça. Mais vous avez aussi visité la ville de Gothenburg, si je ne m'abuse.
Ouais, en Suède, on est allé. Ouais, on était dans les ghettos de Gothenburg où on se sentait nullement menacé. Non, disons que les ghettos en Europe, c'est. Ben, en tout cas, en Scandinavie, c'est moins rough que Montréal-Nord.
Ben, je parlais de Gothenburg parce que c'est le prochain bloc. C'est un bloc de musique de Gothenburg.
Ouais!
J'en avais pas fait encore, fait que je sentais cet attrait. Je commence en force avec Dark Tranquility. On a mis des pièces de leur dernier album, on a mis des pièces de leur premier album en carrière. Là, je suis allé avec pas mal le milieu. Un de mes albums préférés, je pense, de Melodic Death, Fiction, leur 8e album qui est sorti en 2007. La semaine passée, on parlait de The Arrival, qui était un peu comme l'espèce de d'album où est-ce que Hypocrisy ont trouvé leur son, puis ce sont vraiment... Tout s'est mis à marcher ensemble. Je trouve Fiction, c'est un peu ça pour Dark. Ils ont cimenté plusieurs styles des précédents, puis des futurs. Fait que ça reste un de mes albums préférés d'eux. J'étais allé avec la pièce Misery's Crown.
Nous, quand en 2007, cet album-là, c'était classé numéro 1 à notre émission Les Lutins de l'Enfer à la radio. Et ils avaient réédité l'album en 2008 et il était encore numéro 1 en 2008.
Ouais.
2 années back-à-back. Ouais, c'est un des masterpieces dans le style, quant à moi. Ils seront suivis de Arch Enemy, qu'on n'a pas encore mis d'Arch Enemy, même si on n'a pas assez proche. Mais on était fiers de ne pas en mettre.
Ouais.
À notre bloc, à notre épisode de Front Woman. Alors voici Arch Enemy, band de Gothenburg aussi, qui date de 1996. Je suis allé avec une pièce de la période post-Angela, fait que l'album War Eternal de 2014 qui a introduit la montréalaise Alicia White Glues à la place d'Angela, qui est restée dans le band, mais plus en coulisses. Là. Elle est plus rendue manager. Elle manage même le groupe Amaranth maintenant.
Ah ouais?
Pour le meilleur et pour le pire. Ouais.
Moi, j'aimais mieux Angela comme chanteuse que Alyssa. Elle est bonne, la nouvelle chanteuse d'Arch Enemy. Ben, la nouvelle, fait déjà plusieurs années qu'elle est là. Mais j'aimais mieux Angela pareil. Angela était également meilleure que le premier chanteur de Arch Enemy. Je me rappelle pas de son nom. Il était ses 2 ou 3 premiers albums d'Arch Enemy avant de se faire kicker out. Pour le plus grand bien.
Mm-hmm.
Ouais. J'aime bien la voix d'Alyssa, mais effectivement, elle m'a déçu en show. Elle a des gros costumes, puis elle se donne un genre, je trouve.
C'est un
homecoming à Montréal en plus. Ouais, c'est ça. Puis elle a rien mentionné de spécial, vraiment, qu'elle est à Montréal. Puis elle a fait quelque chose qui m'énerve, là, ben, le groupe, là, pas juste elle. Là, ils ont dit on fait une toune juste pour vous, Montréal. Mais après ça, tu vas voir le setlist, puis à fond, tous les maudits shows. Là, fait que.
Ouais.
Ouais, c'était un peu ordinaire, mais quoi que le band est bon en show, mais tu sais, je sentais pas que c'était spécial pour eux. Fait que... c'est ça. Arch Enemy, ça a l'air assez mort quand même de leur côté. Là. Ils ont annulé les spectacles. Pas d'album en vue. Fait que... on va voir ce qui se passe avec eux.
Mais l'album War Eternal, c'est un bon album. J'avais bien aimé.
Ouais. Très bon. Et on va d'ailleurs écouter la pièce No More Regrets. Au lutin.
De l'enfer.
Et c'était la pièce I Am Above de In Flames, un extrait de leur album de 2019, Eye the Mask. Je sais que c'est un album qui n'a pas fait l'unanimité. Quand je regarde les reviews sur Internet, il n'est pas trop apprécié même, mais personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas aimé un album d'In Flames de même depuis Rust and Nail, je pense qu'il s'appelle. Non, Sounds of Playground Fading.
Fading.
Juste avant, j'avais pas. Ouais, j'avais pas aimé vraiment Siren Charms et Battles entre les deux, mais...
il était pas bon non plus les deux, là. C'était vraiment pas
non,
le fun.
Non, c'était déplaisant. Mais mon commentaire de Battles, c'était « C'est meilleur que du Linkin Park
». Ben, Linkin Park, le premier album... Non, Linkin Park, les deux premiers, même trois premiers albums sont bons, Linkin Park.
Peut-être période pour période, mettons.
Ouais.
Fait que,
je suis d'accord que le dernier album d'In Flames, j'ai bien aimé et tout. Je pense que j'ai quatre pièces de cet album-là sur mon Nota Bene d'In Flames.
Ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais c'est ça. Ça donne une lueur d'espoir.
Ben, ils se sont trouvés un son qui semble apprécié, je trouve. Puis, tu sais, en 2019, je les ai vus deux fois en spectacle. Puis, je sais qu'In Flames ont donné des prestations décevantes dans le passé, mais cette fois-ci. Anders puis Bjorn, ils avaient vraiment l'air d'avoir du fun ensemble, puis ils semblaient avoir retrouvé quelque chose.
Ben oui, ils ont réussi
trouve.
Leur objectif. Ils ont réussi à éclairer toute la bande, le reste du staff. C'est pour ça qu'ils étaient heureux.
Il va falloir que tu nous parles de ta théorie de Dirty Anders bientôt. Là.
Ouais, ça serait plus sur la page Facebook, ça, avec des images et tout à élaborer, là. Sinon, ça va prendre une émission de 3 heures. Là.
Parce qu'ils s'étaient donné live, tu sais, je les ai vus au début de 2019 avec Within Temptation. C'est drôle de mix, puis après ça, un autre avec une espèce de. Un autre drôle band qui s'appelle Red, mais tu sais, c'est comme du gros rock un peu commercial. Fait qu'In Flames avait vraiment l'air d'avoir envie d'être en tournée, puis ils revenaient encore avec le show Megadeth, Lamb of God, fait que. Il était parti pour la gloire. C'était bien le fun.
Ouais, mais ils font pas. Je pense qu'avec Lamb of God et Megadeth, ils sont guests. Comme Trivium, ouais. Il y a Trivium et tout avec eux.
C'est ça. Ils semblent être encore là pour octobre 2021. Fait que hâte de retrouver.
On n'a pas
manqué
dans tous les bons sous-sols d'église.
In Flames.
Non, c'était la place belle, celui-là.
Ah! Ouais, le sous-sol du Centre Bell.
Le sous-sol à Laval.
La pastorale du Centre Bell.
La pastorale. Ouais, l'évangile à papier avant tes périodes.
Là. Mm-hmm. Entre les périodes, on fait de l'origami.
C'était quand... Claude Lafortune qui s'appelait le monsieur qui faisait l'évangile à papier. Là.
Je me souviens pas. Je me souviens de sa face, mais...
Pas du nom.
Mm.
Je me rappelle de ses personnages principaux, là, c'est Dieu, Jésus.
Ouais, hein, ça reste.
Les grands classiques.
Hey, on parle de Dieu, on parle de Jésus.
Ouais.
Cette semaine à la job, je me demandais, j'étais comme. Tu sais, moi, j'adore la radio commerciale, puis la répétition de la radio commerciale constante. Puis là, tu sais, j'entends Rock and Roll All Night là, de Kiss.
Kiss.
Puis je me suis dit, eux autres, ils ont vendu leur âme pour être populaires. Puis leur punition en enfer, c'est à chaque fois que cette tune-là joue, il faut qu'il ajoute live. Il faut qu'il soit autant dedans. Elle doit sonner exactement pareil comme sur l'album, sinon... Ils sont obligés de la reprendre en enfer. Fait qu'à chaque fois que vous entendez une toune de Kiss, dites-vous que c'est Kiss en enfer qui la joue live.
Ben, je sais qu'ils ont fait un épisode avec Scooby-Doo en animation aussi. Kiss et Scooby-Doo en petit comique, puis à fond également dans le petit comique.
Ah, fait que tu vois, à chaque fois que tu écoutes le petit comique, c'est. Tu sais, je sais pas, Scooby-Doo, ça vient des années 60. Fait que depuis les années 60, faut qu'il se tape la toune live en enfer pour ça. La radio le fait jouer à tous les jours. Il se la clanche à tous les jours.
Il mérite, il mérite.
Ouais, c'est le shot.
C'est assez bon.
Ouais, Rock'n'Roll All Night, j'aurais le cœur raide de la jouer.
Ben, t'es cœur raide de l'entendre, je pense.
Mm-hmm. Fait que la jouer pour l'éternité, pas sûr que ça me tente.
Non, mais tu sais, pour de vrai, là, c'est un des gros problèmes des radios commerciales, c'est que peu importe la toune, tu sais, même si la chanson est bonne, c'est qu'il y a brûle, malheureusement. Un artiste sort une nouvelle toune, puis tu sais, il y a brûle, veux dire, avant que l'album s'est sorti, tu sais, elle sort en single, puis que l'album est sorti, t'es déjà, mais blasé d'entendre cette chanson-là. Ou, comme on a déjà parlé, tu sais, des groupes comme Pink Floyd, tu sais, ils ont pas fait juste Money puis The Wall, là, dans leur carrière, là.
Mm-hmm. Il y a place à variété.
C'est ça. Nous, on fait ça de la variété.
On fait de la variété. Tu sais, moi, à Shop, j'aimerais bien mieux entendre la musique industrielle de temps en temps plutôt que d'entendre un bon lieu, donne-moi une job des colocs. Fait que moi, je remédie à la situation pour toi qui peux écouter ce podcast à ton travail. J'ai mis une vieille toune de Ministry de 96, Just One Fix, un succès souvenir. Puis avant, ben, j'ai décidé de mettre de quoi un peu plus récent, mais encore dans l'industriel. Tu
te souvenais de tous les bons crack house, là?
Oui.
OK.
Ça jouait sur repeat dans ton crack house, je me souviens, des années 90.
Ouais, j'étais manager d'un crack house, là, pour ceux que ça demande.
Belle ligne à ton CV.
Ça a été un franc succès.
Oui, oui, oui. Mais on a un manque de clients.
Dommage.
C'est pas pourquoi, hein? Ils finissent.
Clientèle difficile à renouveler.
Ouais. Mais une clientèle tellement fidèle. Bref. On va y aller avec une pièce de Three Teeth. La pièce Entropy tirée de leur album Shutdown.exe, sorti en 2007. Au lutin de.
L'enfer!
L'enfer! On vient d'entendre une pièce de Pain tirée de l'album Rebirth de 99, la pièce Delusion. J'aime bien cette pièce-là, je trouvais que ça faisait un peu espace. Puis il dit space dans la toune, ça peut pas faire plus espace que ça. Il y a Pain, dans le fond, c'est le band de Peter Tagrand qu'on avait fait un spécial dans notre dernier podcast, Hypocrisy. Ben, c'est son projet
commercial
qui est devenu plus populaire qu'Hypocrisy, finalement.
Mm-hmm.
Ouais, c'est bon, Pain.
Ouais, fait
mais
que,
Peter est sympathique.
Ouais, un artiste à découvrir, presque tout ce qu'il a touché est excellent, sauf le dernier album de Lindemann que j'ai écouté et que j'ai trouvé pourri. J'ai même pas trouvé de pièce
bon,
à
hein?
passer. Il est vraiment, vraiment pas bon.
Non, vraiment pas intéressant. Tu sais, je pensais qu'il serait mieux vu que Till chante en allemand dessus au lieu de chanter en anglais. Puis non, il n'y a rien qui lève.
La seule chose qui me reste en tête, c'est fic, 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 mathématiques.
Ah oui, c'est vrai, c'était là-dessus. Ah, c'était pourri, ça. Till qui se lance dans le hip-hop crasse.
Vois-tu, moi, je trouvais que c'était la meilleure tune de l'album.
Non, c'était le premier single qu'il y avait, puis je trouvais que c'était mauvais.
Hein. Ça donne une idée pour le reste.
Ouais. Est-ce que c'est une pochette aussi pratique que l'album d'avant?
Oui, oui, j'ai acheté la même pochette pratique. Je me suis dit que ça fitrait ensemble ailleurs que dans ma collection de CD, parce qu'elle est plus haute que tout le reste.
Ouais, c'est ceux qui comprennent pas pourquoi on dit pratique, c'est tu sais, des pochettes qui viennent toutes scraper parce qu'elles ne fit pas nulle part là, en format.
Ouais.
Plus haute.
Ouais, le nom exact, c'est Digibook. C'est pour ceux qui savent c'est quoi, hein, c'est ça. C'est Digibook. Fait que c'est format. C'est pareil comme un DVD en fait.
OK. Puis ce qu'on a comme nous, c'est juste un book.
C'est un Digibook pareil. C'est exactement okay, c'est la même chose.
Mais il est plus format livre.
Ouais, mais oui. Mais il y a pas ça un Digibook. Tout pareil.
Là, c'est 2-0 Montréal, présentement. Et j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. Paraît qu'avec Gustafsson dans l'alignement, on est invaincu. Donc, comme le dit mon ami Guillaume, Gustafsson pour le Norris. Rien de moins.
MVP!
J'ai conté une anecdote à mon patron dernièrement au travail. J'ai un gros drapeau des Canadiens. Puis il y a une partie des playoffs que j'avais amené mon drapeau des Canadiens avec moi pour la partie contre les Flyers, si je me rappelle bien. Et m'était fait dire de ranger mon drapeau par
ah
la
oui,
sécurité.
C'est vrai, quand on est allé au Centre Bell.
Ouais, si je l'ai. OK, tu sais, je suis un fan des Canadiens, j'ai encouragé mon club, mais faut pas que je le montre. Disons que j'ai trouvé ça un peu plate. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces agents de sécurité-là quand il y a un show de lutte? Tu sais, ils disent pas à tout le monde, hey, cache ta pancarte de gars en bobette ou etc. Là, parce que show de lutte, c'est juste ça, des pancartes. Là, tu vas voir un show de pancartes.
Mais sais-tu c'était quoi? C'est parce que je me suis dit, on était aux galeries, puis on l'avait déployé comme. On était la première rangée, on l'avait déployé sur le bord de la galerie. Probablement qu'on cachait une pub.
Mm-hmm. Ouais. Une pub, celle qu'on
peut-être
voyait tout le tour, là.
Ouais, c'est ça. Celle qui se répétait. Il en manquait une, tu sais.
C'est ça. T'as un coup qu'on voyait pas bien le mot belle décrit.
C'est... Ouais, c'est ça. J'étais au centre. Ouh, moi, là. Donc, si seulement ce drapeau n'était pas. Cachait pas le mot, tu sais.
Bref. Mais toi, t'es déjà allé dans des vrais shows de lutte, hein, si je me trompe pas, Olivier.
Ouais, j'étais allé à 2-3. Le plus mémorable, c'est lui. Il y avait eu un des WrestleMania qui avait eu The Rock contre Hulk Hogan. C'était à Toronto. Puis le lendemain, c'était Raw à Montréal. Puis c'était un de ceux que j'étais allé. Ça avait été pas pire avec The Rock et Hogan dans le ring.
Mais côté pancarte, ça.
Ouais, il y avait de la pancarte, là, mais je me souviens pas de m'en avoir fait toute. Ah, il y a une fois, j'avais amené un drapeau du Canada, puis Chris Benoit était content. Mais tristement, ça s'est terminé en tragédie dans son cas. Ah, d'ailleurs, il y a une série intéressante qui s'appelle Dark Side of the Ring. Ils sont rendus à 3 saisons de tragédie dans la lutte. Chris Benoit est loin d'être le seul.
Non, il y en a eu beaucoup. Disons que la lutte...
Ben en fait, c'est plus les stéroïdes.
Ouais, c'est
qui...
pas vrai, c'est fake. Ouais, il y a plein de marde qui se passe pour de vrai, là. Malheureusement, pour les lutteurs, là. Mais c'est pas une vie facile. T'es jamais chez toi. T'es obligé d'être en bobette ou en leggings.
The Rock, il porte bien ça.
Ouais, ben, il y en a que ça va très bien, le speedo, là. C'est pas ça la question, là. Mais, tu sais, faut qu'ils s'aient équipés en conséquence pour que ça
non,
aille bien.
Non, mais le fait de pas être chez eux, puis...
Non, mais tu sais, je suis convaincu, moi, que les lutteurs sont même dans la vie de tous les jours. T'sais. Big Show, là, t'sais, à 7 pieds 2, 500 livres, il va faire l'épicerie, il est en grenouilleur. Là, je le vois pas autrement que comme ça. Là. Faire son épicerie en grenouilleur, wow.
Un classique.
On continue la musique?
Ouais.
Vas-y fort. On est rendu là.
Je reste au Danemark. Et je vais revenir un petit peu à Kate Sphere parce que tous mes groupes ont un peu rapport à Kate Sphere. Dans les premiers albums, le deuxième et le troisième album d'Kate Sphere, il y a un drummer qui s'appelait Morten Toff Hansen qui a quitté Kate Sphere par la suite pour aller dans le groupe qui était déjà depuis 1992, mais ça a pris jusqu'en 2002 avant que le groupe sorte de quoi. Et c'est le groupe Raunchy. C'est un de mes groupes préférés dans le... Ben, il se décrit Metalcore. Ça fait pas longtemps que le groupe est ajouté sur le Metal Archives parce que c'était pas considéré comme du metal. Et bref. Ouais, ben, c'est du Metalcore, donc c'est pour ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être ce que j'écoutais de plus violent dans le commercial. Parce que c'est très, très, très commercial, Raunchy. Mais... C'est super bon. C'est pour ça que vous faites un triplé. Vous allez pouvoir juger par vous-même, chers auditeurs. C'est que j'ai pris 3 pièces de 3 albums éparpillés dans leur carrière. On va entendre une pièce de leur deuxième album qui était paru en 2004, Confusion Bay. C'était avec cet album-là. Je les avais découverts via un vidéoclip sur des compilations de DVD à l'époque que Nuclear Blast faisait. On va entendre la pièce Summer of Overload avec leur tout premier chanteur qui s'appelait Lars Vongstrup. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il devait être trop décrisse dans la vie pour faire plus que 2 albums parce qu'il a été éclairé par après. Et le 4e album qu'on va entendre, c'est la pièce à Heavy Burden. L'album, c'est Wasteland Discothèque qui était paru en 2008. Et là, le chanteur s'appelait Casper Thompson. Et encore une fois, un autre chanteur qui l'a pas eu facile, il a été encore une fois clairé pour la troisième pièce. Je vais présenter les trois tout de suite, vu que c'est un triplé. C'est la pièce de Castaway Crown, tirée de leur sixième album Vice, Virtues and Vision, par en 2014. Et le chanteur est présentement Mike Semeske. Donc, trois tonnes de raunchy, trois albums, trois chanteurs, trois lutins, la Sainte Trinité.
Tout est trois.
Tout est trois. Donc, c'était ça, Raunchy. C'était bon, hein? Vous en voulez plus? Vous allez en avoir plus. Vous irez sur la page Facebook des lutins. Je vais publier mon nota bene de Raunchy. Sûrement dans la journée qui va suivre le release de l'émission. Pour vous donner une chance, là, quand même. Là.
Et ça, je te demandais si le groupe est toujours actif. On a une petite.
Ouais, le groupe est toujours actif, mais il ne fait rien présentement depuis 2014. Mais tu sais, ça me faisait rire parce que Raunchy, quand ils s'étaient sortis après leur 3-4e album, le groupe se faisait rire d'eux autres sur la scène métal parce que c'est pas un band métal. Puis ils se faisaient plein de préjugés. Vous êtes juste un band MTV. T'sais. Mais je suis là, un band MTV qui a pas de vidéoclip, c'est quand même relativement spécial.
<T'sais. Ouais.
rire> Ils avaient juste deux vidéoclips Raunchy. Il y avait eu le Watch Out qui était en animation, c'est le vidéoclip qu'ils nous avaient fait découvrir. Et il y avait Warriors, je crois, pour l'album Westland Discothèque, avec des personnes âgées qui vont aux putes. Donc,
Oui! Hey, c'était loin dans mes souvenirs, ça.
C'est que c'était les deux vidéoclips. Ils en ont sorti un autre depuis. Bref, un band MTV qui a sorti trois clips en 6 albums en 20 ans de carrière. Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, parce qu'ils sont quand même plus métal que beaucoup de groupes. Là. C'est un peu bizarre qu'ils aient été boudés si longtemps.
Ouais, hein, je sais pas pourquoi, parce que tu sais, même dans les riffs, tu sais, c'est souvent les bands qui seront pas dans le métal, c'est des bands que ça a plus juste de la rythmique, mais il y avait quand même beaucoup de mélodies. C'était pas un genre de drum 2-4 tout le temps. Je veux dire. En tout cas, j'ai jamais compris pourquoi vraiment que le band a été un peu boudé là, par les métalleux, mais moi je les ai jamais boudés. C'est un groupe que j'aurais aimé voir en show, mais que j'ai arrêté d'espérer les voir en 2004.
Depuis qu'ils sont actifs, mais pas tant, ça regarde encore moins bien.
Moins bien pour ça. Mais bon. Puis je sais que quand on avait découvert Raunchy, même Dee était emballé. Ils avaient un son que tu avais bien aimé.
Ouais, ben, son de clavier, à moins que tu parles. Moi, ouais. J'aimais bien le clavier là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui despise le clavier, donc le petit côté électronique, moi j'aimais bien le Raunchy. Puis encore aujourd'hui, chaque album est un peu différent, puis c'est un band très très solide.
Aussi solide que le jeu Hitman.
Hitman.
J'ai pensé à ça, ouais, Hitman, le dernier Hitman qui est sorti, est-ce que le Lutin D, tu l'as fini?
Ben non, j'ai pas le droit. Il nous reste deux tableaux à faire ensemble.
Ok, je pensais que tu l'avais fait, puis après ça, on continue notre game de notre bord. Ok, ah.
Non, j'attends bien. Après toi. Il me reste deux tableaux à finir. Dans le fond, pour nos éditeurs, moi et Carl, depuis Hitman 2, on fait les Hitman pas mal tout le temps ensemble. Puis, fait que là, c'est ça, j'ai acheté Hitman 3 et puis je suis en train de le faire. Moi, je suis un fan fini. Là, fait que si vous posez la question, est-ce que le jeu est bon? Ah oui. J'en mets partout, je trippe bien raide. j'étais un peu impartial, j'étais un grand fan d'Hitman.
On t'en met partout, t'es le contraire de l'agent 47 là.
Ouais, c'est ça, moi je me fais remarquer contrairement à lui. Mais j'aime le c'est un jeu qui est assez lent, tu sais, dans le fond, pour expliquer un peu, c'est un jeu de dissimulation, de stealth, faut que tu te caches, tu peux te déguiser pour. C'est un jeu d'infiltration, voilà le mot que je cherchais.
Mm-hmm.
Fait que j'aime ça. Tu peux rester dans une pièce à attendre 5 minutes de temps que les gardes se placent de la bonne façon pour que tu butes sans te faire voir. Et puis... Non, j'aime le côté stratégique et le côté justement qu'il faut que tu attendes, faut que tu sois patient.
Ils ont plusieurs jeux. Il y a eu Hitman Go qui avait sorti, qui était plus pour tablette et Android et compagnie, là. Tu l'avais fini, je crois, aussi. T'es fini tout, à nouveau, les Hitman.
Ouais, les Hitman, j'ai 100% succès sur toutes les Hitman. Fait que je suis fan à ce point-là, mais Ouais, Hitman Go, qui est quand même intéressant. C'est du tour par tour. Ça ressemble à un jeu de table, en fait. Ils ont fait Deus Ex Go aussi, ou Tomb Raider Go. Ils en ont fait quelques-uns.
Tomb Raider, ouais.
Dans le même principe. Puis c'est quand même intéressant. C'est un petit jeu de stratégie. Il faut que tu penses à ton affaire aussi, mais ça pourrait exister en jeu de société de table.
Quel était ton pire Hitman? Le jeu que tu as aimé le moins?
Le jeu que j'ai aimé le moins, je vais y aller avec Absolution. Parce que il y avait des idées intéressantes là-dedans, mais il manquait quelque chose. Puis, tu sais, je pourrais dire qu'il y a peut-être des petites lacunes dans les vieux, dans les, mettons, le 2 ou Contracts ou les plus vieux, mais faut se remettre dans le contexte de l'époque là aussi.
Ouais, ça, c'était des limitations.
Je dirais avec Absolution.
Absolution. Je sais que le monde avait plus ou moins aimé et tout. C'était, dans le fond, c'était une histoire. C'était le premier Hitman que tu ne préparais pas à faire des missions. T'sais, dans le fond, vu que tu te fais hunter tout le long, tu n'as pas vraiment le choix de. L'agence t'a abandonné.
Fait que au lieu d'être un sandbox, il faut que tu passes dans un tableau d'un point A à un point B. C'est ce que les fans avaient moins aimé. Moi, j'aimais un peu la dynamique dans certains tableaux, mais c'est ça, c'est un peu moins intéressant en bout de ligne.
Une chose qui va être intéressante, c'est le prochain bloc musical.
Oh! Moi, en tout cas, il y a une toune que j'ai hâte de réentendre là-dedans.
Alors, ouais, côté musique, on fait un peu un rappel avec... on a commencé à Mastodon, on poursuit avec un groupe un peu à la Mastodon qui s'appelle... Bon, là, ça va être un peu compliqué. Il s'appelle Dvne. D-V-N-E. Anciennement, il s'appelait Dune, à ce que je sache, mais maintenant, il s'appelle Dvne avec un V. Alors, désolé si je l'ai dit mal, mais...
Un U-Romain.
Pourtant, le site, il marque comme avec un V, mais bon. On va les appeler Dvne, parce que c'est rigolo. Mais peu importe comment ils s'appellent, c'est un excellent band qui vient de l'Écosse, des Royaumes-Unis. Ils sont encore dans les Royaumes-Unis, l'Écosse, je crois que oui. Alors, c'est un groupe qui date de 2013. C'est seulement leur deuxième album. L'album s'appelle Etemen Anka. Alors, avec un AE en plus, c'est un peu spécial. Alors, c'est pas un band qui rend la chose facile pour les podcasters, mais on va les pardonner parce qu'ils font de la bonne musique. C'est Sludge Stoner. J'ai beaucoup aimé l'album. Là. C'est bon de A à Z. Ils sont présentement numéro 6 sur Metal Storm pour 2021. Fait que je suis pas le seul à penser ça. On va écouter la pièce. Encore une fois, une espèce de nom à coucher dehors. 6-14 en chiffre romain. allez sur la playlist des lutins que vous pourrez trouver sur la page Facebook pour avoir les détails de ce band difficile à retrouver. Et ils seront suivis du groupe Haken qui a sorti un album l'année passée en 2020, l'album Virus avec la pièce Prosthetic, un excellent album. Le band vient des UK aussi, il date de 2007, c'est leur sixième album, Virus. C'est ça, en plus, sur la version, l'édition spéciale, il y a la version uniquement instrumentale, ce qui est quand même intéressant pour un groupe comme ça. Ça vaut la peine d'écouter ça. Donc.
Moi, je trouve ça bien, il y a de plus en plus de groupes qui sortent des albums instrumentaux.
Ouais, ou tu sais, comme un disque 2 instrumental, c'est toujours intéressant.
Ouais. Ben, faut qu'ils en donnent un peu plus. Ils veulent vendre leur CD. Là.
Non, s'ils veulent jouer dans les karaokés, ça prend des versions instrumentales.
Ils visent le marché chinois.
Alors, Haken, mais d'abord, Dvne, au lutin de l'enfer. Pour le troisième épisode de suite, j'ai mis un groupe de la Grèce, pays qui est sous-estimé en termes de métal, semble-t-il. Je suis aussi surpris que vous.
Ouais, c'était toutes des bands pas connues que tu penses.
Ben, c'était le band Hail Spirit Noir, qui date de 2010, un extrait de leur cinquième album Eden in Reverse, paru l'année passée en 2020. Ils sont classés progressifs, mais il y a un aspect psychédélique années 70-80 que j'aime bien dans le groupe. Un excellent album, même leur logo aussi est un peu comme ça. Fait que sinon, j'ai beaucoup aimé cet album-là.
Moi, j'ai adoré cette pièce-là, puis il y a un chanteur invité sur la pièce, c'est Lazar de Borknagar et Solfald qui chantent là-dessus.
Ah ouais.
Il y a une voix assez particulière, fait que c'est pour ça que quand j'ai pogné cette pièce-là, j'ai fait « Hein, voyons, c'est-tu un band, un projet de ce gars-là, puis le kit, là, finalement, j'ai fait de la recherche, j'ai vu « Non, non, il est juste invité, mais j'ai vraiment adoré cette pièce-là, je vais écouter l'album. » Ça m'a donné vraiment le goût d'écouter le disque.
Ouais, ça vaut la peine, hein. Il y a une sonorité vraiment intéressante. Puis ils s'en viennent avec un autre album en septembre, alors à suivre ce groupe grec Hail Spirit Noir, si vous voulez un peu plus smooth.
Un bon smoothie à l'ail.
Ah!
Alors...
Ça, c'est pour aller avec ton bol de tabac.
À mettre dans la même catégorie que le que le quick aux fraises gazifié. Là.
Ouais.
plusieurs suggestions cuisine
pour un déjeuner bien réussi.
Tout ça, la diète Lemmy va sortir un livre bientôt, ça a l'air.
Ouais, ça, fuck les régimes keto. Le régime Lemmy.
Quick aux fraises gazifiées. Céréales au botch.
Le petit déjeuner des champions.
Ouais, ouais.
Ah, c'est malheureusement 2-2. Les glorieux nous gardent en haleine.
Mm-hmm.
Et nos auditeurs ne sauront pas ce qui se passe avant encore 2 semaines.
Et non.
Non, mais surtout qu'ils ne doivent pas savoir comment ce match-là a fini.
C'est pas grave.
Parce que c'est déjà l'heure de la nouveauté de la semaine.
Eh oui.
Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine.
Cette semaine, comme nouveauté, j'y suis allé avec un groupe que j'affectionne particulièrement, Amon Amarth, qui ont ressorti une pièce plus tôt parce que c'est les 20 ans de leur album The Crusher qui est paru en 2001. Donc, si on suit la logique, et ils ont ressorti la pièce Masters of War qu'ils ont réenregistrée avec leur son moderne. Puis c'est vraiment... j'aime ce concept-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, il y a des groupes que leur premier album, c'est plus difficile côté production. Puis Amon Amarth en fait partie, malheureusement. Là, leurs 3-4 premiers albums sont so-so en termes de production, mais la musique, des fois, sur des albums live, c'est là qu'on découvre ces albums-là. Puis Masters of War, c'est une excellente pièce. Puis effectivement, modernisé, ça sonne beaucoup mieux.
Ben, il y a beaucoup de groupes qui font ça, puis moi, j'aime vraiment. Là. Helvetti, il y en a un, Everything Remains As It Ever Was, quelque chose comme ça. Je me souviens pas le nom d'une compile, mais que c'est ça, c'est leur premier EP qu'ils ont réenregistré, ça sonne super bien. Plusieurs bands ont fait ça, et puis moi, j'aime vraiment quand ils vont réenregistrer en studio.
Moi, je pense qu'ils le font vraiment pour leurs fans, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que souvent, tu sais, les premiers albums, ils sont tannés des jouets raides, tu sais, ils font moins de tunes en show. On s'entend que c'est normal quand tu es rendu à 12 albums, tu sais, les deux premiers albums, tu les as runnés là, longtemps. C'est que, pour qu'ils rentrent en studio, qu'ils retravaillent tout, faut vraiment qu'il y ait une passion. Tu sais, autant, tu sais, ils feront ça pour le fan, mais faut qu'ils aient allumé aussi. Parce que sinon, je sais pas si les résultats pourraient paraître, tu sais, que... Ça, oui, ça sonne moderne pis tout, mais moi on dit qu'il manque de quoi sur l'album, là, sinon le groupe n'est pas intéressant. Ouais. Mm-hmm. J'ai pas remarqué ça dans les groupes qui refont des albums.
Et dans la colonne des moins succès, c'est peut-être In Flame, justement, qu'on a entendu plus tôt, qui ont refait Clayman un peu plus mitigé, là, comme.
Oui, c'est vrai.
Un peu trop changé,
ça.
Je trouve.
Ben déjà que à base, Clayman n'est pas leur meilleur album. Là.
Ouais. Mais ils ont comme carrément changé. Tu sais, il y a des pièces qui ont carrément changé le son, puis, mais qui ont rajouté des choses qui n'étaient pas là en partant. Fait que. Ils ont refait 5-6 pièces, je pense. Peut-être un peu moins succès, mais bon. Amon Amarth a réussi, évidemment. Tel des Vikings qui écrasent un village. Ils ont réussi, là. Masters of War.
Fait que, ouais, à la semaine prochaine, déjà.
La semaine prochaine, dans deux semaines.
Dans deux semaines. C'est encore mes vieilles habitudes de radio, là.
Mm-hmm.
Alors, ben, voilà. N'hésitez pas à nous suivre et à laisser des commentaires. On vous lit. Tous ceux qui nous laissent des messages de fans en délire, on est très contents de les recevoir.
Oui, en effet, c'est assez positif, négatif et critique. On est capable d'en prendre, là. Gênez-vous pas. Dans le pire des cas, on va les ignorer.
C'est ça, on est fait fort. Alors, sur ça, les lutins, cheers!
Let's go!
Vodka.